Chapitre 12. Dans la semaine qui suivit, Peggy dut faire le tour de la station sous la conduite de Mona, qui lui servait de chaperon. Elle remarqua que la disposition circulaire des lieux laissait deviner la structure annulaire de la station orbitale. Elle estima que l'anneau de récréation, comme on le surnommait, représentait un périmètre d'une dizaine de kilomètres. Cela laissait augurer de l'importance des installations globales. Cet étage consistait en une suite de lieux de plaisir, alternant bars, dancing, cinéma, complexes sportifs et boutiques de luxe. De temps à autre, une grande baie vitrée, protégée par une grille de fer forgé, permettait de contempler la banquise. Un brouillard tenace voilait en permanence ce panorama factice, où s'ébrouaient des ours blancs et des phoques. « Le verre est trop épais », grommela Mona un jour qu'elle buvait un café au pied de l'une de ses fenêtres mensongères. « On n'y voit pas très bien, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. » Ici, les tempêtes soufflent à plus de 300 km à l'heure. Si l'on utilisait du plexiglas ordinaire, il exploserait sous la puissance des rafales. « Ben voyons », songea Peggy. Elle se montrait docile et attentive, soucieuse de bien faire. De temps à autre, elle croisait une autre apprentie en tailleur gris-perle, elle aussi chaperonnée par une ancienne. C'est ainsi qu'elle rencontra Poppy, qui lui adressa une grimace comique, de loin. Peggy en fit autant, car la fille lui était sympathique. Peu à peu, Peggy prenait ses repères. Quand Mona avait parlé de dancing, elle s'était imaginée d'horribles bastringues empestant la bière et la fumée. Il n'en était rien. Il s'agissait ici d'établissements fort corrects où des couples ondulaient dans une pénombre complice au son de slow démodé. L'alcool y était de très bonne qualité. « Les types ne sont pas des Apollons, tu as pu t'en rendre compte », soupira un jour Mona. « Beaucoup de chauves et de bigleux parmi eux. À force de rester assis toute la journée devant leur ordinateur, ils finissent par se payer de bonnes petites bedaines. Faut faire avec. Il y a toutefois quelques spécimens assez craquants, mais ils sont très demandés. Ah, détail important, ne ramène jamais un type chez toi. C'est toi qui dois te rendre chez lui. Surtout, déguerpis avant qu'il se réveille, et toujours avec le sourire. Tu dois t'appliquer à leur faire croire que tu n'as jamais connu meilleur baiser. C'est d'autant plus facile de le leur faire gober qu'ils en sont déjà persuadés. Ai-je le droit de refuser une invitation sans qu'y Peggy ? Oui, fit Mona avec la lassitude de celle qui répond pour la millième fois à la même question. Mais je te conseille de ne pas le faire trop souvent. Disons que tu disposes d'une demi-douzaine de jokers annuels. C'est la tolérance limite. Si tu persistes au-delà, on te retirera du circuit distractif pour t'affecter au broyage des singes crevés. À toi de voir. Chacun ses priorités, pas vrai ? Au matin du huitième jour, Mona annonça à Peggy que la période de formation était achevée et qu'elle devait désormais voler de ses propres ailes. « Si tu as un pépin, conclut-elle, téléphone-moi. Je suis en quelque sorte ta responsable syndicale. Je t'ai fait parcourir l'étendue de ce qui sera ton terrain de chasse. À toi d'en tirer le maximum. » Elles se séparèrent sur ce dernier échange. Une heure plus tard, une hôtesse se présenta chez Peggy pour lui reprendre le tailleur gris-perle dont elle n'aurait plus besoin. « Bonne chance !» lui lança-t-elle en se retirant. Peggy était tendue et mécontente. En une semaine, elle n'avait pas réussi à découvrir le moindre embryon de piste. Si elle demeurait affectée à l'espace distractif, elle n'apprendrait rien sur le fonctionnement réel de la station. Il lui fallait trouver le moyen de grimper dans les étages, découvrir ce qui se cachait sous le masque lénifiant de la cité de loisirs. Elle n'approcherait de la vérité qu'en s'infiltrant au cœur des installations scientifiques, des laboratoires. Mais comment y parvenir ? Ne pouvant différer trop longtemps son entrée dans le monde, elle décida de se jeter à l'eau. Lorsqu'elle ouvrit sa penderie, elle constata que le service d'équipement avait profité de son absence pour la remplir de tailleurs et de robes portant la griffe de couturiers en vogue. S'il s'agissait de contrefaçons, Elles étaient de première qualité. Sur la face interne de l'une des portes, on avait affiché une liste de recommandations pour lui permettre d'accessoiriser les différentes parures sans faute de goût. Elle s'habilla et descendit dans la galerie de détente à la recherche d'un bar. Elle choisit le Blue Dog, où avaient coutume de se retrouver les chercheurs en biologie moléculaire. Mona lui avait appris que les scientifiques se regroupaient par spécialité. Ainsi, le Why Not s'était-il attiré une clientèle de physiciens planchant sur le problème des rayons cosmiques. Quand Peggy avait demandé où se retrouvaient les simples ouvriers de maintenance, Mona avait répondu d'un air pincé « À un autre niveau, estime-toi heureuse de ne pas y avoir été affectée. Ces mecs sont plutôt lourds. Ici, tu n'auras affaire qu'à l'élite. » Peggy s'installa dans un coin sombre et commanda un gin fizz. Le bar était presque désert. Rien de plus normal. À cette heure, la population masculine travaillait d'arrache-pied. Un quadragénaire aux cheveux gras vint toutefois la rejoindre. Il souriait bêtement et ses ongles étaient noirs. Il s'appelait Norbert Van Zitten et tripatouillait l'ADN. C'est du moins ainsi qu'il se présenta. C'était un chercheur de niveau 4, ayant accès à bien des secrets. Il avait bu et ses mains tremblaient. Peggy identifia sans mal l'odeur qu'il dégageait. C'était celle de la peur. Ce type crevait de trouille. « Vous êtes nouvelle, hein ?» bétifia-t-il en remontant les grosses lunettes de myope qui ne cessaient de dévaler l'arête de son nez. Peggy sourit et, rassemblant son courage, lui servit le numéro 5 fourni par le centre de formation. Celui dans lequel elle avait été danseuse de corde dans un petit cirque ambulant du Texas. C'était un sketch piquant et drôle qu'elle avait appris par cœur. Van Zitten s'esclaffa à plusieurs reprises. L'heure suivante parut interminable à la jeune femme. Aussi fut-elle soulagée quand le scientifique, après avoir consulté sa montre, lui déclara qu'il devait malheureusement regagner son laboratoire, car il avait une expérience en cours. Ils promirent de se revoir bientôt. Les jours suivants, Peggy multiplia les rencontres du même genre. Chaque fois, les hommes se révélaient fuyants, angoissés, maladroits, travaillés par de secrets tourments. Ils n'avaient pas grand-chose à raconter, certains étaient enfermés là depuis 6 ans. Ils avaient tous cependant quelque chose en commun, la paranoïa. La plupart, avant même d'ouvrir la bouche, déposaient sur la table un étui à cigarettes qu'ils n'ouvraient jamais. Peggy finit par découvrir que la boîte était un brouilleur de micros bricolé avec les moyens du bord. Ils buvaient beaucoup. Certains prenaient des euphorisants, des drogues maison. Ils surnommaient cela du HMC, abréviation de Home Med Cooking. Ils insistaient chaque fois pour que Peggy en avale, elle aussi. Elle obéissait sans rechigner, sachant que les nanoparticules s'arrangeraient pour neutraliser les effets des antimétaboliques. Ils riaient trop fort, passant de l'excitation à l'abattement. Dans l'ensemble, ils offraient le tableau d'individus soumis à une trop forte pression et sur le point de craquer. Elle accepta de suivre Van Zitten chez lui, le devinant trop ivre pour mener à son terme la moindre entreprise sexuelle. Il vivait dans une suite somptueuse au Governor Park Hotel. Comme elle l'avait prévu, il s'effondra sur le lit tout habillé en gonflant tel un avion faisant son point fixe. Ayant éteint les lumières, elle le déshabilla, puis fouilla l'appartement. Ses yeux de chat lui permettaient de se déplacer sans difficulté au sein des ténèbres. Rien à craindre du côté des caméras infrarouges, estima-t-elle. Si les services de sécurité en ont installé, Van Zitten les a neutralisés depuis longtemps. Elle fit chou blanc. Les tiroirs ne recelaient que des revues érotiques, des romans de science-fiction, des DVD pornographiques, ainsi qu'une invraisemblable collection de strings de toutes les couleurs. Van Zitten les avait-il arrachés aux filles, ayant eu le triste privilège de le suivre jusqu'ici? Désappointée, elle se mit nue et se coucha à côté du scientifique, au cas où il s'éveillerait dans la nuit. Elle en fut bien inspirée, car il émergea par 3 fois du coma éthylique, lui tripota vaguement le sein droit avant de retomber dans l'inconscience. Elle s'éclipsa au matin après lui avoir préparé du café. La soirée avait au moins servi à une chose. Aux yeux du service d'évaluation, elle ne faisait plus partie des recrues timorées qui repoussaient les avances. Elle avait sauté le pas. Elle venait de prouver qu'elle souhaitait s'intégrer. Dans le courant de la journée, elle reçut une note du service de coordination l'informant que le docteur Van Zittin avait pris une option de 3 mois sur elle. Jusqu'à l'expiration de cette option, elle devrait se considérer comme sa petite amie en titre et s'abstenir de tout commerce charnel avec d'autres hommes. On la félicitait par ailleurs d'avoir fait valoir ses capacités et suscité autant d'intérêt dès son apparition sur le marché. Peggy éberluée hésita un moment entre la honte et la colère. Elle se rappela à temps qu'elle était censée se réjouir d'une telle réussite et pour fêter l'événement, s'empressa de se livrer aux joies du shopping dans la grande galerie marchande de l'anneau de récréation. Yumiko avait adopté une stratégie identique. Dès la fin de sa période de formation, elle avait mis la main sur un physicien de 50 ans, Otto Pembroke. Un homme maigre, plus craintif qu'un lévrier, qui lui avoua dès leur deuxième rencontre, nourrir un penchant secret pour les dominatrices. Yumiko Yuchitsune avait subi la dure formation des hirondelles du KGB. Au cours de sa carrière, elle avait partagé la couche de dizaines d'hommes et de femmes sans jamais éprouver le moindre plaisir. Elle ne souffrait nullement de ce que d'aucuns considéreraient comme une infirmité. Ses sens en repos lui permettaient de garder la tête froide et de toujours conserver le contrôle de la situation. Dans son métier, c'était un atout de première importance. Elle n'eut donc aucun mal à se plier aux fantasmes de Pembroke. Lorsqu'il avait assez souffert, le maigre Otto la renversait sur son lit et la possédait en gémissant de douleur et de plaisir mêlés. C'était le moment que choisissait Yumiko pour ordonner aux nanoparticules de s'infiltrer dans l'organisme du physicien. Remontant le canal de l'urètre, les nanoséléments se propulsaient vers le cerveau de Pembroke pour le sonder à la façon d'un virus informatique explorant un disque dur. Leur besogne accomplie, les particules magiques redescendaient vers les parties basses du scientifique pour réintégrer l'enveloppe corporelle de leur maîtresse. Grâce à cette méthode, Yumiko parvenait à glaner des images, des impressions qu'elle s'efforçait d'interpréter. Les souvenirs copiés dans le cerveau de Pembroke n'étaient jamais clairs. On eût dit qu'une sorte de parfum mental les cryptait. La japonaise supposa que les savants avaient subi une préparation chimique destinée à les protéger contre les méfaits du sérum de vérité. Néanmoins, les images, les bribes de phrases rapportées par les nanoparticules étaient inquiétantes. Chaque fois qu'elle les visionnait, Yumiko avait l'impression de regarder la bande-annonce d'un film d'épouvante. Des scènes affreuses et floues s'y télescopaient, mêlant cadavres, éventrations, scènes de mutilation et visages hideusement déformés. S'agissait-il de cauchemars, de fantasmes? Elle en doutait. Un soir, qu'il était encore plus agité que d'ordinaire, Pembroke lui tendit une cravache, s'agenouilla et lui ordonna de le frapper jusqu'à ce que le sang gicle. Alors que Yumiko protestait pour la forme, il se mit à hurler « Tu n'as aucune idée de ce qu'on me force à faire. Je mérite d'être puni. Je dois expier mes crimes. Frappe, frappe de toutes tes forces. Tu feras une bonne action. » La jeune femme ne se fit pas prier. Le dos zébré des staphylates sanglantes, le physicien s'écroula sur le tapis sans connaissance. Le lendemain, le service de coordination lui apprenait par une note que le docteur Pembroke l'a réservé pour toute la durée de son engagement. En clair, elle venait de trouver un protecteur et n'aurait plus besoin d'écumer les barres. Afin qu'elle n'ait pas à repousser les assiduités des autres mâles, on avait joint à la missive une broche tarabiscotée, en or massif, représentant une colombe en cage. Ce naïf symbole serait là pour signifier aux importuns qu'elle n'était plus sur le marché. Cette promotion ne fut pas du goût de Yumiko. Elle avait projeté en effet de passer d'un homme à l'autre, ceci afin de collecter le maximum d'informations. Son instinct lui soufflait qu'elle ne tirerait rien de Pembroke. Son esprit, verrouillé par le pare-feu chimique, résisterait à toutes les tentatives d'effraction. Elle attendit 2 semaines encore, guettant les bribes de phrases murmurées par le physicien dans son sommeil. Il répétait souvent les mêmes mots. « Deuxième étage, l'Oyabon, le directeur, la mort lente, la mort lente. » Il faisait de fréquents cauchemars dont il s'éveillait tremblant. Il prenait beaucoup de pilules et restait des nuits entières devant son ordinateur, s'usant les yeux sur des jeux de rôle infantiles où il endossait la personnalité d'un roi des elfes. « Heureusement que tu es là » bredouillait-il parfois en étreignant la main de la jeune femme. « Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. Ou plutôt si, je le sais trop bien. Je m'ouvrirais les veines pour en finir une fois pour toutes. » Yumiko le battait comme plâtre 3 fois par semaine. Après ces séances, il semblait se sentir mieux. Il la couvrait de cadeaux somptueux. Au bout d'un mois, avec d'énormes précautions oratoires, il commença à parler mariage. « On ne me permettra pas de te retenir pour une 2e année, » haleta-t-il. « C'est interdit. D'ici 11 mois, ils te remettront en circulation. Tu passeras au service de quelqu'un d'autre. Je ne le supporterai pas, j'ai besoin de toi. Mais il existe une solution. Si je t'épouse, ce sera différent. Ils n'auront pas le droit de t'arracher à moi ou de te changer de secteur. » « Quand se termine ton engagement, Sanki Yumiko ?» Pembroke grimaça. « Jamais sans doute, gémit-il. J'occupe un poste trop important. Ils ne me laisseront jamais redescendre, je veux dire repartir. » « Tu es gentil, » fit la jeune femme, « mais je dois réfléchir. Ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. »« bien sûr, bégaya Otto, je comprends. » Yumiko se leva, lui caressa la joue et se rendit dans la salle de bain. Elle venait de prendre la décision de le tuer. Elle ne pouvait pas se permettre de traîner Pembroke comme un boulet. Le mariage entraverait sa liberté de manœuvre, ce n'était guère envisageable. Quand la baignoire fut pleine, elle pria l'homme de la rejoindre. Il obéit, se déshabilla et se plongea dans l'eau. C'était généralement le moment qu'elle choisissait pour soigner les plaies balafrant le dos du physicien. Il se laissa faire en ronronnant comme un chat. Dès qu'il fut assis dans la baignoire, Yumiko passa derrière lui, saisit le couteau qu'elle dissimulait dans la manche de son peignoir et lui trancha la gorge. Le savant poussa une suite de borborygmes, se débattit, puis s'effondra la tête dans la mousse. Yumiko laissa tomber la lame sur le carrelage, sans l'essuyer. Ça n'avait aucune importance, puisqu'elle avait ordonné aux nanoparticules de sculpter au bout de ses doigts des empreintes identiques à celles de Pembroke. Après s'être rincé les mains au lavabo, elle regagna le salon et feuilleta un magazine. Quand elle estima qu'un délai raisonnable s'était écoulé, elle décrocha le téléphone intérieur et d'une voix affolée annonça à la permanence de sécurité que le docteur Otto Pembroke venait de se suicider. On lui ordonna de ne pas bouger et de ne toucher à rien. 5 minutes plus tard, une équipe d'hommes vêtus de combinaisons de caoutchouc rouge faisait irruption dans l'appartement. Ils ne posèrent aucune question à Yumiko et se contentèrent, une fois le décès établi, de faire disparaître le cadavre à l'intérieur d'un body bag. Au moment de tourner les talons, celui qui les commandait se pencha vers la jeune femme pour lui enjoindre de récupérer ses affaires et de regagner la chambre qu'elle occupait avant d'emménager chez Pembroke. « Attendez là-bas, » conclut-il. « Votre hiérarchie vous dira quoi faire. » La mort du physicien ne fut annoncée nulle part. Ceux qui l'avaient connu s'appliquèrent à gommer son nom de leur mémoire. Yumiko fut convoquée au service de coordination pour une brève enquête. Elle se contenta de répéter que Pembroke lui avait fait l'effet d'un homme déprimé. « Il ne disait jamais rien, » précisa-t-elle. « Il restait muet pendant des heures. Parfois, il me faisait peur. » L'enquête n'alla pas plus loin. On la remercia en lui précisant qu'elle était mise en disponibilité. « Vous comprenez, » s'excusa l'orientateur, « nous sommes forcés de vous changer d'affectation. Personne ne voudra plus de vous en tant que compagne. Les scientifiques sont paradoxalement très superstitieux. On vous accuserait de porter la poisse. Je suis désolée, Je vais essayer de trouver quelque chose qui soit dans vos cordes. » Yumiko le remercia et prit congé. Elle se retint de sourire. Elle savait d'ores et déjà qu'on allait l'expédier au deuxième étage, à la section des cauchemars. « Le sort en est jeté, » pensa-t-elle avec soulagement. Les choses ne se passèrent guère mieux pour Peggy. Van Zitin, qu'elle voyait deux soirs par semaine, s'était mis en tête de booster ses capacités amoureuses au moyen d'un aphrodisiaque de son invention. « 100 fois plus efficace que le Viagra, » répétait-il. « Les laboratoires me feraient un pont d'or pour en obtenir la formule. » À chaque rendez-vous, la jeune femme devait donc subir ses étreintes, qui, par chance, n'excédaient jamais 3 minutes. Elle détestait cela, mais s'appliquait à le dissimuler. Van Zitin était maladroit et lui faisait mal. Elle n'aimait pas le sentir vautré sur elle comme un cheval mort, dont il avait du reste l'odeur. Par ailleurs, il était plus verrouillé qu'un coffre-fort et ne laissait jamais filtrer la moindre confidence. Un soir qu'il avait abusé de son aphrodisiaque maison, il eut une crise cardiaque et s'effondra sur le tapis du salon, raide mort. Comme cela s'était passé pour Yumiko, le service intérieur la pria de regagner sa chambre et d'y attendre une nouvelle affectation. « Je ne peux pas vous maintenir dans l'escadron de charme », lui expliqua l'officier orienteur. « On vous soupçonnerait d'avoir causé la mort du docteur Van Zitin en faisant montre d'un appétit sexuel démesuré. Personne ne voudrait plus courir le risque de vous inviter. » Peggy savait ce que cela impliquait. On la retirait de la scène pour l'expédier dans les coulisses.